Mariam Majidi, comment peut-on être persane ?
Elle est née à Téhéran en 1980, en même temps que la République islamique d'Iran, mais la famille de Mariam Majidi, communiste, n'est pas du côté des mollahs. Sa mère enceinte échappe de justesse à la répression de la police du Shah d'Iran, qui vit ses derniers moments de monarque. Son père est en exil à Paris et elle a 6 ans lorsqu'elle le rejoint, après une prime enfance écrasée par l'obscurantisme. Elle deviendra une lettrée reconnue, mais perpétuellement aspirée par son pays natal, sa langue et sa culture millénaire. La vie à Téhéran était impossible pour cette famille de gauche cultivée et aisée. Les livres de Marx, Lénine ou Engels, comme sa poupée, seront enterrés pour ne pas livrer d'éléments à preuve au pouvoir qui interdit ses lectures aux adultes comme les jouets aux enfants. La fillette devra se séparer de ses fétiches pour apprendre le détachement matériel et l'abolition de la propriété, lui dit sa mère. Elle jurera de revenir plus tard déterrer sa poupée. La petite fille, devenue femme, retournera en Iran, en effet, 3 voyages aux conséquences plutôt contradictoires. « Ton éducation a fait de toi une femme libre, tu ne peux plus vivre ici », lui dit-on. Marx et la poupée est un magnifique livre pour la liberté, c'est aussi un plaidoyer pour la culture iranienne et ses immenses poètes et la langue française. Comment peut-on être persane tout autant que comment peut-on être française ? Aujourd'hui, Mariam enseigne le français à des réfugiés pour leur donner des armes d'intégration et de partage. Elle écrit aussi, et son livre a déjà été couronné du Goncourt du premier roman et du prix Ouest-France Étonnant Voyageur, 2 distinctions méritées. Signalons également que son manuscrit a été analysé et discuté par des lecteurs l'année dernière aux correspondances de Manosque lors du labo de l'édition. Je vous propose d'écouter Mariam Majidi parler de son livre et de ses 2 cultures. Mariam Majidi, Marx et la poupée commence dans l'effervescence et cette manifestation étudiantine qui démarre à Téhéran.
En effet, c'est le chapitre, donc le premier chapitre qui ouvre le roman. On y découvre une jeune mère d'une 20aine d'années, enceinte d'un bébé de 7 mois, qui va en tout cas manifester dans l'université de Téhéran et qui se retrouve poursuivie par la milice et qui n'a pas d'autre choix que de sauter du second étage pour échapper aux coups et surtout aux bâtons plantés de clous que brandissent la milice de l'époque.
Et la police ne verrait pas d'inconvénient à frapper et à tuer éventuellement une femme enceinte en plus ?
Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils reçoivent l'ordre de frapper, ils frappent. Donc à ce moment-là, on ne fait plus. Ce qu'on voit en l'autre, c'est l'opposition au régime mis en place. Donc après, que cet opposant soit une femme, un homme, enceinte, pas enceinte, handicapé, vulnérable, tout ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Il faut frapper celui qui incarne en fait une idéologie différente de la leur.
La suite du livre, c'est bien sûr plutôt Marx, et puis la poupée pour la petite fille qui est en train de grandir. Au bout de 10 ans, la situation est infernale, intenable. La famille est obligée de fuir et obligée d'enterrer, de cacher ce passé à la fois littéraire et politique et aussi le cacher les jouets de la petite fille. C'est un véritable déchirement.
Et oui, l'exil de toute façon est une cassure. Il y a quelque chose qui se brise. Et dans la vie, dans la trajectoire de l'exilé, dans son identité, dans sa psyché, dans son rapport aux autres, donc il y a une fêlure quelque part. Alors, j'ai essayé de le dire avec des métaphores, de le dire à travers la poésie, et effectivement cette image de ce couple qui enterre les livres interdits de Marx, Engels, etc. Et puis cette petite fille qui enterre à son tour ses jouets, et la mère qui enterre aussi ses rêves. Tout ce qu'on enterre, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on laisse dans la terre natale pour peut-être un jour venir le déterrer. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Et c'est ce que vous faites donc toute la suite du roman, c'est-à-dire qu'il y a le retour de ce bébé au tout début, de cette jeune fille qui revient, une jeune fille pétrie de culture française et qui va se frotter, pour pas dire s'entrechoquer, avec la culture iranienne et la vie iranienne quotidienne actuelle.
Effectivement, après 17 ans d'absence en Iran, j'y retourne donc après 17 ans et j'ai 23 ans à ce moment-là. C'est intéressant parce que ça n'a pas été un choc avec l'Iran, ça a été un choc avec la France. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis le pied en Iran, je me sentais totalement iranienne, je ne voulais plus du tout rentrer en France. Et c'est la culture française qui m'était apparue dès lors, inconnue, étrangère, loin de moi. Et je ne m'y attendais pas du tout, en fait à ça. Au contraire, j'ai plongé dans l'Iran, j'ai plongé dans la culture iranienne, je me suis noyée même. Et c'est des années après, si vous voulez, où j'ai commencé quand même à prendre du recul avec tout ça et à comprendre effectivement qu'il m'était désormais impossible de vivre en Iran. Alors pourquoi ? Ben parce que c'est une dictature encore aujourd'hui. Moi, quand j'entends les gens me parler d'ouverture iranienne, d'ouverture de ceci, c'est pas possible. On peut pas laisser dire des choses pareilles. Le régime est toujours sanguinaire. Le régime emprisonne toujours tous les défenseurs des droits de l'homme. Il est impossible de parler politique. La liberté de presse n'existe pas. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas oublier toutes ces choses concernant l'Iran. Donc, il m'est impossible de vivre en Iran pour ces raisons-là et aussi parce que je suis une femme et que la femme, tout de même, dans la société iranienne, n'a cessé d'être quand même bafouée dans ses droits.
Il y a un personnage qui le dit très bien d'ailleurs, il dit « Toi, tu es trop éduquée, tu peux pas vivre ici ».
Mais oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que moi, quand je suis retournée pour la première fois en Iran, bon, je voulais plus rentrer en France et tout le monde me disait « Mais tu as perdu la tête, mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train finalement de refuser et d'accepter ici. Ce que tu refuses de la France, c'est quand même toutes ces choses qui t'ont formée et tu es en train d'accepter un pays, une culture, une manière de vivre et d'être qui te seront toujours étrangers parce que finalement tu n'as pas grandi ici, tu ignores les codes de ce pays. Et c'est vrai que la deuxième fois quand j'y suis retournée, ça s'est pas du tout passé de la même façon. Là, je voyais tous les travers de ce pays, je voyais tous les aspects négatifs, c'était insupportable, je me suis disputée avec tout le monde. Puis la troisième fois, j'avais comme trouvé un peu la voie du milieu, c'est-à-dire que je voyais à la fois les aspects positifs et négatifs. Et puis aujourd'hui, ça me paraît extrêmement clair, non seulement je n'y retournerai plus, et en plus, il m'est impossible d'y vivre.
Et également le poids de la religion, c'est quand même un régime islamiste, et donc effectivement, on peut pas croire en autre chose que ce qui est voulu par l'État.
Voilà, et puis alors on a affaire à une théocratie, donc c'est la religion qui est au pouvoir. C'est la religion, alors c'est quelle religion ? C'est l'islam chiite, interprété par ceux qui sont au pouvoir, donc on ne sait plus finalement que penser. Enfin, c'est très difficile de se faire aussi une idée du coup sur tout ça, parce que d'un côté, il y a ce régime répressif, qui empêche toute liberté. De l'autre, il y a le peuple iranien qui essaye tant bien que mal de vivre et d'avoir des moments d'oxygène, des moments de soupape pour pouvoir quand même respirer. Donc, déjouer par mille façons la censure. Et puis de l'autre, on a, je sais pas comment appeler ça, une espèce de pouvoir politique. Alors aujourd'hui, on a un modéré, demain, on a un réformateur, puis on a quelqu'un qui va être conservateur. Vous voyez, on jongle avec tout ça. Mais au final, c'est une théocratie, c'est la religion qui est à la tête du pays et qui gouverne.
Votre livre a une histoire qui est liée à Manosque parce qu'il a été au cœur du premier labo de l'édition, autrement dit des lecteurs qui l'ont lu, disséqué, discuté, critiqué, et c'est remonté jusqu'à votre éditeur, les éditions du Nouvel Attila. Et vous avez eu connaissance des retours de ces lecteurs avant la publication de Marx et la poupée ?
Oui, j'ai eu les retours par mon éditeur et c'était très important à ce moment-là pour moi, en fait, d'avoir ces retours-là parce que c'était en cours de publication. Et je ne savais pas du tout ce que le lecteur allait penser de mon roman. Et donc, avoir ces retours positifs sur un manuscrit qui, en plus, était vraiment au stade de la non-modification éditoriale, si je puis m'exprimer ainsi, ça a été pour moi vraiment un encouragement très grand. Et comme une confiance en moi de me dire, bon, alors, peut-être que finalement, ça pourrait plaire.
C'est un livre qui a déjà reçu deux prix, dont le Goncourt du premier roman. Félicitations. Et puis, il y a peut-être d'autres prix qui vont arriver. On va terminer en vous demandant de nous faire un petit cadeau, Mariam. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques vers d'Omar Khayyam ?
Bien sûr. Je vais vous réciter un quatrain d'Omar Khayyam. Vous le voulez en persan ?
Les deux.
Les deux ?
Les deux.
Mahtab benour damaneshab beshekoft. می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت خوش باش و میندیش که مهتاب سر خاک یک به یک خواهد تافت. Alors je traduis: le clair rayon de la lune a fendu la robe de la nuit. Bois, tu ne trouveras plus un instant aussi propice. Sois heureux et sans souci, car cet astre que tu vois déversera sa pâle lumière sur nos tombeaux bien des nuits.
Merci infiniment, Mariam.
Merci à vous.